Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire basket sur les ondes de BPM Sport. Je m'appelle William Thériault. C'est l'émission Alley-Hoop 360 que vous allez entendre pour la prochaine heure. Bien content d'être là aujourd'hui parce que on est dans une période charnière, une période fructueuse pour le basketball à différents niveaux. C'est-à-dire que on a le March Madness qui est sur le point d'aboutir. C'est la finale lundi soir, dimanche en ce moment, donc demain. On a les séries éliminatoires de la NBA qui démarrent sous peu. Hein? On est déjà rendu au mois d'avril, premier épisode d'avril actuellement. Et quand on regarde la fin de la saison régulière, la date pour laquelle c'est prévu, c'est le 9. Le 9 avril, donc dans exactement une semaine. Donc, ça s'en vient. Il reste 4 ou 5 matchs par équipe à disputer. Et en plus de ça, on a des candidats. Ben, en fait, c'est plus des candidats, c'est maintenant des intronisés officiels au Temple de la Renommée qui feront leur entrée pour la QV 2023. Donc, on va discuter de tout ça aujourd'hui. On a Pascal Jobin qui nous viendra en fin d'émission pour discuter du March Madness, des surprises et du portail de transfert parce que ça peut avoir une incidence un peu sur ce qui se déroule ailleurs dans la NCAA, sur le changement d'université que certains joueurs peuvent vouloir faire. Et on a deux blocs également avec Charles Dubébret, donc les deux premiers, pour analyser différentes choses. Donc, les courses au play-in qu'on va faire donc en deuxième temps. Et on va commencer par cette histoire avec Nick Nurse et les Raptors de Toronto. Ça ne va pas aussi bien qu'on aurait voulu, à un point où l'avenir entre ces deux cas-là est incertain. Donc, Charles Dubébret est là aujourd'hui. Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi-même?
Oui, ça va bien aussi. Mieux que la relation entre Nick Nurse et les Raptors actuellement, je crois. pour ceux qui ont pas suivi, là, peux-tu nous faire un peu un résumé là, de ce qui s'est déroulé? Parce que selon Tim Bontemps, qui sortait ça hier, Nick Nurse a dit qu'il allait prendre quelques semaines pour voir où il en est, là, je le cite, parce qu'il a qualifié la saison de difficile de plusieurs points de vue.
Oui, effectivement, puis je pense que ces déclarations-là, c'est ce qui est intriguant, c'est de lire entre les lignes aussi ce que ça veut réellement dire, parce qu'on sait que les entraîneurs-chefs, les directeurs-gérants, tout ça, quand ils passent devant les médias, c'est des experts de communication. Ils sont capables de faire la langue de bois quand il faut la faire. Ils ont l'habitude d'être des politiciens, puis de dire des banalités de manière à ne pas trop faire de vagues, et puis garder certaines choses derrière les rideaux, disons, puis qu'on soit pas au courant de tout ce qui se passe. Et c'est normal de faire comme ça, ce qui fait en sorte que c'est assez surprenant de voir, avec ce timing-là, aussi une déclaration comme celle que Nurse a fait, parce que bon, on entend ça le 31 mars, au moment juste avant le match contre les Sixers. Il reste 9 jours à la saison régulière, il restait 6 matchs aux Raptors à ce moment-là, maintenant 5. Les Raptors n'ont pas terminé leur saison, loin de là, ils ne sont pas éliminés de la course, ils sont justement en plein milieu d'une course au tournoi play-in avec, à mon avis, des chances tout à fait correctes de sortir du tournoi play-in et de participer aux séries éliminatoires. D'ailleurs, je prédirais au jour d'aujourd'hui une participation aux Raptors, mais ça serait probablement, presque certainement, contre les Bucks ou contre les Celtics. Et à mon avis, ces équipes-là vont battre les Raptors au premier tour. Et c'est ce que je pense que les Raptors sont en ce moment, soit dit en passant. C'est une équipe de séries éliminatoires, mais pas une équipe qui gagne une ronde en séries éliminatoires. Donc, quelque part entre la 9e et la 16e meilleure équipe de la NBA. Donc, t'es milieu de tableau un peu meilleur que la moyenne. Et Nurse, je pense qu'avec les années, il y a potentiellement un disconnect, là, une déconnexion, si on veut, entre ce que lui pense et ce que peut-être l'état-major des Raptors pense de son côté. C'est pas évident de s'imaginer pourquoi il l'a dit le 31 mars. Mais moi, en y réfléchissant, je me suis dit, clairement, il veut faire passer un message hein, à l'ensemble de la Ligue, à mon avis, quand il parle à ce moment-là. Pourquoi dire ça à ce moment-là plutôt que le 15 avril après le tournoi play-in s'ils sont éliminés ou alors le 30 avril après la première ronde s'ils sont éliminés à ce moment-là?
Ben, c'est le point que j'ai un peu en tête. Hein. Le timing me semble étrange.
Oui, et je vais te la donner la réponse à mon avis, si tu me demandes de mes deux cents là-dessus. Moi, je pense que cette déclaration-là, elle veut dire que Nick Nurse, il ne sera pas à Toronto l'année prochaine. Si j'avais à miser aujourd'hui, parce que tu ne dis pas des choses comme ça, quand est-ce qu'on entend un entraîneur qui est sous contrat dire je vais réfléchir à la fin de la saison. Mais je veux dire, Nick Nurse, il n'est pas agent libre. Il lui reste une année de contrat. Par contre, les coachs de cette stature-là n'opèrent jamais sur leur dernière année de contrat. Parce qu'ils savent qu'ils sont très vulnérables. S'ils coachent leur dernière année de contrat, peuvent se faire congédier à n'importe quel moment. Ça ne coûte presque rien à l'organisation. Donc, souvent, les coachs qui ont justement une bonne réputation, comme Nurse qui a gagné un championnat, vont avoir leur extension de contrat négociée avant la saison. Donc, on entendrait, par exemple, maintenant, Nurse et les Raptors se sont entendus sur une extension de 3 saisons supplémentaires. Donc, Nurse, quand il commence l'année prochaine, il ne coache pas la dernière année de son contrat parce qu'il y a des années qui ont été rajoutées. Donc,
C'est justement, juste pour être sûr, je t'arrête 2 secondes, c'est un peu une négociation qui se fait entre l'entraîneur et l'équipe pour ne pas avoir à vivre cette situation, cette pression de la dernière année de contrat finalement.
Exactement. Et
OK.
ça, les coachs qui arrivent en dernière année de contrat, en
OK.
général, c'est des coachs qui sont à leur premier contrat dans la ligue, qui n'ont pas nécessairement été très bons. Exemple, un Steven Silas à Houston, tu sais, qui n'a
OK.
pas eu
Ouais,
très
je
bons
comprends ça.
résultats. Ben, bon, je pense que Silas, il y a des bonnes chances qu'il ne soit plus l'entraîneur des Rockets l'année prochaine, mais s'il l'était, il serait en grand danger et il le saurait. Et puis, les coachs, en général, ne veulent pas opérer sous ces conditions-là. Donc, on pourrait dire, est-ce que Nurse, c'est ce qu'il veut, c'est-à-dire, c'est se négocier une extension de contrat. Mais en réalité, Nurse, il est en communication constante. Les Raptors, moi, je l'ai vu de l'intérieur, il est en constante communication avec Masai Ujiri, avec Bobby Webster. Donc, je ne vois pas du tout un scénario où c'est ce qu'il essaie de faire en ce moment. Et ce n'est certainement pas utile à son équipe d'avoir déclaré ça dans les médias. Donc, moi, pour moi, c'est un message au reste de la Ligue de dire, je vais probablement être disponible dans 1 mois. Et ne
Ouais.
m'oubliez pas dans vos recherches d'entraîneurs quand certaines équipes, on sait qu'à chaque année, il y a 3, 4, 5, 6 postes qui vont s'ouvrir dans la ligue. Que Nurse veut dire à tout le monde, hey, vous ne me considérez pas comme un coach disponible en ce moment, mais je vais prendre quelques semaines pour réfléchir et je vais peut-être en être un coach disponible dans quelques semaines. Il y a des endroits où on trace des liens directement avec Nick Nurse, comme les Rockets de Houston. C'est quelque chose qui est sorti dans les médias parce qu'il a été l'entraîneur de leur équipe de G League longtemps. Faut pas oublier que le patron des Rockets à cette époque-là, c'était Daryl Morey, qui est à Philadelphie. Doc Rivers n'est pas dans une situation non plus où son poste est confortable. Les Sixers font une bonne saison, mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe un univers où les Sixers affrontent les Celtics en deuxième ronde et perdent.
Ouais. Puis là, dans ce cas-là, c'est du côté de la direction de l'équipe, on va se dire, bon, c'est le
Ben, c'est ça.
process, j'ai beau y faire confiance, mais il mène pas tant loin que ça en série, là.
Exactement. Donc, il y a un lien entre Daryl Morey et Nick Nurse aussi, même s'il y a
Ouais.
aussi un lien, on pourrait me dire, entre Daryl Morey et Mike D'Antoni, hein, t'sais, qui pourrait. Mais un Nick Nurse, moi, je pense qu'il y a, je veux dire, Nurse a fait un très bon travail les premières saisons avec les Raptors. Je pense qu'il y a des critiques qui peuvent être valides sur ce qui s'est fait depuis 2 ou 3 ans. Après, la situation n'est pas simple. Je n'aime pas critiquer les entraîneurs. Moi, je l'ai côtoyé de près. Je pense que c'est un entraîneur exceptionnel, Nick Nurse. Mais il reste que je pense qu'il y a certainement une différence d'opinion entre ce qu'on pense que les Raptors peuvent être du côté de l'état-major des Raptors et ce que les Raptors sont réellement sur le terrain et ce que les coachs pensent que les Raptors peuvent être.
Moi, je pense
Et
qu'ils pensent qu'ils peuvent faire plus.
ben, probablement. Et en quelque part, tu sais, ce que Nurse a dit, bon, il met ça sur le dos du fait que ça fait 10 ans qu'il est là. Donc, 10 ans, ça a été une bonne run d'entraîneur avec une organisation. On a eu beaucoup de succès, tout ça. Mais, je veux dire, tu sais, Popovich, il n'a pas dit au bout de 10 ans, je vais réfléchir. Ça fait maintenant 10 ans que je suis à San Antonio. Ou Steve Kerr, dans 1 an, quand ça va faire 10 ans. Bon, je spécule. Je ne sais pas ce que Steve Kerr va dire dans 1 an, mais disons que tu sens qu'à Toronto, il y a peut-être disons, on s'apprécie peut-être moins dans un sens comme dans l'autre, et c'est ce que ses commentaires laissent croire. Cette histoire-là aussi de dire publiquement, je ne me rappelle plus des termes exactement. Enfin, si, oui, c'est ça. Il a dit voir où est-ce que ma tête va être et réfléchir à comment est la relation avec l'organisation. Ça, pour moi, c'est une drôle de phrase à dire devant des journalistes. T'sais. Parce que si ta relation est très bonne avec l'organisation, tu vas dire, je vais prendre quelques semaines pour réfléchir à comment ma relation va avec l'organisation. Je veux dire, si t'es bien en amour avec ta blonde, tu vas pas dire, ben, je vais
C'est
prendre
ce
une
que
couple de
j'allais
semaines
dire.
pour réfléchir. Je veux
C'est ce que
dire.
j'allais dire. Si tu es en couple et tu es heureux, normalement, tu n'as pas besoin de moments pour réfléchir à tout ça.
Non, c'est ça. Donc, que ces commentaires-là deviennent publics, si c'est arrivé, comme je dis, après l'élimination des Raptors, c'est une autre chose. Mais je pense que de laisser couler ça dans la presse, parce que c'est très facile de dire pas de commentaires, de bifurquer. Comme je dis, ces gens-là
Ouais.
sont experts à ça. Donc, je pense que la façon dont Nick Nurse a présenté ça devant les médias, il est trop intelligent, à mon avis, pour ne pas être conscient des conséquences que ça peut avoir sur son équipe. Et sur la perception aussi que Masai Ujiri et Bobby Webster vont avoir de la situation dans un premier temps.
Je suis pas sûr qu'ils ont aimé ça.
Non, exactement. Tu veux pas ça. Les joueurs doivent trouver ça bizarre aussi. Mais c'est surtout, comme je dis, je pense que c'est un message public. Peut-être pour des équipes justement comme Houston, comme Philadelphie ou potentiellement d'autres, de dire, hey, quand vous allez faire votre recherche là, pour votre prochain candidat, vous pensiez pas que j'allais être disponible, mais je vais peut-être l'être. Je pense que c'est ça qui était le timing annoncé par Nick Nurse à ce moment-là. Et plus j'y réfléchis, plus je serais surpris que cette collaboration-là continue la saison prochaine.
Donc, est-ce la fin de Nick Nurse comme entraîneur-chef des Raptors de Toronto? C'est la question qu'on se pose et à laquelle on risque d'avoir la réponse au courant des prochaines semaines. Il y avait un autre sujet dont je voulais discuter donc en ce premier bloc parce qu'on l'a vu à quelques reprises durant les dernières semaines, les derniers mois. La cohorte 2023 du Temple de la renommée du basketball est maintenant connu. Donc, il y a plusieurs très, très beaux noms là-dedans. Ça a été annoncé donc samedi soir lors de la cérémonie qui avait lieu au Final Four de la NCAA. Et puis, donc, on parle de Dwayne Wade qui va rejoindre le Temple de la renommée, Dirk Nowitzki. Ensuite, on a Greg Popovich, Tony Parker qui va y être également et Becky Hammon, donc légende WNBA. Paul Gasol qui se joint à ce groupe-là. Donc, tout un groupe, hein, quand même, toute une cohorte pour le Temple de la Renommée. Quand tu entends ces noms-là, Charles, et que tu vois qu'ils vont accéder un peu au summum de ce qui est une récompense individuelle au niveau du basketball, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça te dit? À quoi tu penses, là, rapidement comme ça?
Un gros clin d'œil au basket international, déjà, dans cette génération-là, parce que tu peux construire un argument d'une certaine façon. Je ne dis pas que c'est nécessairement les trois, mais tu pourrais d'une façon construire un argument pour dire que Tony Parker, Dirk Nowitzki et Pau Gasol sont les trois plus grandes carrières de joueurs internationaux dans l'NBA. Je pourrais rajouter Manu Ginobili à cette discussion-là, mais disons au moins les trois plus grands Européens, sans rien enlever à des joueurs là, passés comme Dražen Petrović ou Arvydas Sabonis ou Toni Kukoč et compagnie, mais disons que clairement, le plus grand français, le plus grand allemand et le plus grand espagnol, donc trois des grandes nations de basket en Europe, ben, c'est sans aucun doute ces trois joueurs-là.
Ils rentrent toute la même année.
Ils rentrent tous la même année, donc ça, c'est un beau clin d'œil. C'est un clin d'œil aux Spurs de San Antonio aussi, parce que tu pouvais, il n'y a pas plus tard qu'il y a 5 ou 6 ans, voir un petit conciliabule où ça discute avec Greg Popovich, Becky Hammon, son assistante, avec Tony Parker et Pau Gasol. Tu dis, ben, les quatre rentrent au Temple de la renommée la même
C'est
saison
vrai.
aussi. Hammon, qui est d'ailleurs à souligner parce que c'est l'une des 10-15 plus grandes joueuses de l'histoire de la WNBA. J'ai eu l'opportunité d'être son adjoint avec les Spurs en Summer League pendant 2 ans. Donc, très bonne personne, super entraîneur qui connaît une très belle carrière en ce moment, qui a gagné le titre récemment avec les Aces de Las Vegas dans la
Oui.
WNBA à sa première saison. Donc, voilà. Et puis, ben, Greg Popovich, meneur de l'histoire pour les victoires, potentiellement le plus grand entraîneur de tous les temps aussi. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas de grosses surprises à ce niveau-là. Puis quand tu regarde les carrières, les monuments du basket que ces joueurs-là représentent, les championnats NBA qui ont été gagnés par Parker, par Gasol, par Dwayne Wade. Dwayne Wade, mine de rien, c'est quoi? Je regarde devant moi, le 32e meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. Pau Gasol, c'est le 42e meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. Tony Parker, c'est le 56e. Donc, tu sais, c'est trois joueurs qui sont dans le top 56. Et puis, si tu rajoutes Dirk Nowitzki, ben lui, c'est l'un des 7 joueurs de l'histoire à avoir marqué plus de 30 000 points. Hein. Tu sais, c'est le 6e meilleur marqueur. Il est installé dans le classement entre les illustres Michael Jordan et Wilt Chamberlain. Tu sais. Donc, ça donne une idée de l'impact et de l'ampleur des choses accomplies par ces joueurs-là. Donc, en réalité, ce n'était pas une grande surprise de savoir que ces joueurs-là termineraient au Temple de la renommée. C'est maintenant chose faite. Et pour les gens qui peut-être peuvent avoir la petite question sur Tony Parker, parce que Parker, c'est sûr que ce n'est pas le profil qui a gagné 2 ou 3 MVP ou qui a été sur la première équipe d'étoiles dans l'NBA, mais Parker, il ne faut pas non plus négliger l'impact qu'il a eu dans son pays en basket international,
C'est ça.
d'avoir gagné l'Euro, d'avoir été MVP de l'Euro, d'avoir joué aux Jeux Olympiques en 2012, en 2016. T'sais, il y a quand même beaucoup d'accomplissements avec l'équipe de France pour laquelle il se faisait une fierté de les représenter
Parce que
année après.
c'est le Hall of Fame du basketball et pas juste de
Oui.
la NBA.
Exactement. Donc, il faut rajouter un bonus à ces Tony Parker, à ces Manu Ginobili, à ces Pau Gasol-là pour ce qu'ils ont fait avec leur équipe nationale qui est à considérer. Hein. Donc, et Parker, je veux dire, ne serait-ce que sur sa carrière NBA, il ne faut pas non plus, comme je disais, faut pas le sous-estimer. C'est quand même quand tu es le 56e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, tu as quand même fait des grandes choses. Puis là, je n'ai pas le classement devant moi au niveau des passes décisives, mais comme c'est un meneur de jeu, là, si j'allais chercher la réponse, il est 19e de l'histoire. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est top 20 au niveau des passes décisives, puis top 60 au niveau des points. Donc, il a sa
C'est ça.
place au temple de la renommée aussi sur la grandeur. Et tout ça en ayant gagné quatre championnats, tu sais, en tant que titulaire dans une équipe. Donc,
Voilà.
bon, franchement, Parker a eu une très, très grande carrière aussi. Gasol, ben, il n'est plus à présenter. Hein, lui a eu probablement une encore plus grande carrière en NBA, puis des titres internationaux comme le championnat du monde, avoir gagné l'Euro à plusieurs reprises, des finales olympiques mémorables contre les Américains. Donc voilà, faut pas non plus, comme je dis, sous-estimer ce que ces gars-là ont fait pour leur pays. Et j'espère, je peux conclure là-dessus, que
Oui.
nos joueurs canadiens pourraient se servir de ces modèles-là pour représenter notre équipe canadienne et se présenter à chaque été, année après année, plutôt que de prendre le modèle des Américains où ça a souvent été à la mode de dire non, je vais me reposer cet été, donc je ne vais pas venir. Parce que les Américains ont ce luxe-là, on ne l'a pas au Canada, donc je suis très confiant de ce qu'on peut mettre sur le terrain avec l'équipe canadienne. Mais pour ça nous prend une mentalité comme ce que fait en ce moment Rudy Gobert, qui a joué l'Euro l'année passée. Yanis Antetokounmpo a joué l'Euro avec la Grèce. Luka Doncic a joué avec la Slovénie. Donc, c'est des joueurs qui sont. T'sais, des joueurs comme Doncic et Antetokounmpo sont top 10 NBA et trouvent que c'est important de s'y présenter. Mais nos joueurs canadiens, qui sont même pas en NBA des aussi bons joueurs que Doncic et Antetokounmpo, eux prennent le modèle américain et disent ben moi, je vais faire comme Steph Curry, puis j'irai pas. T'sais. Je vais faire comme Kawhi Leonard ou LeBron James et je n'irai pas. T'sais. Et ça, je trouve ça un peu dommage et j'espère qu'on puisse prendre l'exemple que nous ont donné les Tony Parker, Gasol et Nowitzki de ce monde.
C'est un beau commentaire, c'est une belle twist pour terminer cette chronique.
Ouais.
On se retrouve après la pause, Charles. On va discuter des courses pour le play-in, parce que mine de rien, ben, ça s'en vient dans les prochains jours. Bon, on vous a proposé un premier bloc composé de nouvelles, hein? Nick Nurse, le temple de la renommée. Maintenant, on va aller dans l'analyse un petit peu parce que les séries éliminatoires de la NBA s'en viennent. Je l'ai dit en début d'émission, mais le 9 avril, c'est là que la saison régulière de la NBA pour cette année se termine. C'est le dernier jour où il y a des rencontres de saison régulière. C'est là où les 82 matchs seront disputés, seront dans les livres. Il en reste 4 ou 5 par équipe à disputer et on veut regarder, bon, pas les séries éliminatoires encore. On n'est pas rendu à connaître l'identité des adversaires hein, dans chaque conférence. C'est quoi les match-ups, c'est quoi les duels auxquels on va avoir droit. Par contre, on peut essayer de jouer avec le play-in. Hein. Vous savez, ce tournoi qui est relativement récent et qui implique donc les équipes classées 7, 8, 9 et 10e dans chacune des conférences pour se battre pour deux places en série, donc les 7 et 8, ce qui donne depuis récemment un accès potentiel aux séries éliminatoires, aux équipes classées 9-10e. Donc, ils rendent ça un petit peu plus compétitif pour que la fin de la saison régulière soit plus significative qu'elle l'était avant. Donc, cet ajout-là, selon moi, c'est très bien. Et puis, on va regarder un peu à quoi ça ressemble le portrait cette saison du play-in. Donc, Charles, juste avant de commencer, j'ai donné un peu mon avis sur l'existence un peu de ce format-là. Puis toi, après l'avoir vu donc à deux reprises maintenant, qu'est-ce que tu en penses de ce format-là, play-in? À quel point c'est approprié pour la NBA?
Je pense que ça rajoute beaucoup d'excitation dans la fin de saison, puis ça garde des équipes compétitives jusqu'au bout. Ça pourrait faire aussi, puis c'était un des principaux objectifs, de diminuer le nombre d'équipes qui se mettent à faire ce qu'on appelle le tanking, hein, de perdre plus de matchs volontairement possible. Si on s'adresse aux amateurs, parler de perdre des matchs volontairement, c'est pas qu'on vise à côté du panier, mais c'est qu'on se met à faire jouer beaucoup, 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 beaucoup de jeunes joueurs et donc des équipes qui sont. On met sur le terrain des équipes qui sont peut-être pas aptes à gagner beaucoup de matchs et ça fait notre affaire parce qu'on augmente nos chances d'avoir les plus hauts choix repêchage et donc Victor Wembanyama. Donc le play-in diminue ça parce que plus d'équipes sont dans la course. Tu regardes dans l'Ouest, en ce moment, tu aurais des équipes, ben, c'est sûr que cette année, tu vas me dire, il n'y a pas une grosse différence entre être huitième ou être dixième, mais tu as une douzaine d'équipes qui jouent le jeu jusqu'au bout, même chose dans l'Est, ce qui fait que ben, tu n'as pas plus que cinq ou six équipes qui sont en mode Wembanyama pour l'instant. Bon, tu as Portland qui a clairement levé le drapeau blanc depuis quelques matchs, puis qui a décidé, on ne fait plus jouer des Lillard, pardon, puis tu vas avoir de plus en plus d'équipes qui vont le faire aussi dans les prochains jours, là, comme il ne reste plus beaucoup de temps. Mais ça crée des luttes qui sont intéressantes et des matchs qui vont être intéressants aussi la semaine suivante, parce que c'est un match pour se qualifier pour les séries, et dans certains cas, c'est deux, mais c'est ce que j'allais dire. On parle du play-in comme étant une chose, mais je pense qu'être septième, huitième, neuvième ou dixième, c'est des scénarios qui sont assez différents. T'es septième, tu dois gagner un match à domicile pour valider ta septième place. Si t'es huitième, ben, tu auras deux chances de gagner un match pour être en série, dont dans le pire des cas, si tu as perdu le premier, le deuxième est chez toi. Alors que quand tu es neuvième ou dixième, dixième, déjà, c'est deux victoires sur la route pour participer aux séries éliminatoires. Donc, il faut que tu battes le neuvième pour ensuite aller battre le perdant du 7-8. Et neuvième, ben, c'est quand même gagner deux matchs, même si le premier est chez vous. Donc, si tu es dans la situation, par exemple, des Raptors au jour d'aujourd'hui, qui sont assez confortablement installés dans le play-in, même si ce n'est pas officiel, officiel, mais depuis un certain temps, on voit qu'ils ne se feront pas rattraper par les Wizards ou les Pacers. Ils sont neuvième. Bon, OK, maintenant, de peut-être gratter la huitième place ou la septième place, c'est quand même un réel objectif parce que ça change les cartes qu'on va te donner là, pour participer. Donc là, au jour d'aujourd'hui, les Raptors devraient battre les Bulls à Toronto pour ensuite aller soit à Atlanta ou à Miami pour se qualifier et aller sécuriser la huitième place pour gagner un affrontement de première ronde contre Giannis Antetokounmpo. Donc, il y a quand même des différentes couches pour moi aux courses dans le tournoi play-in.
Oui, puis, mais en fait, bon, tu mentionnes la différence entre le comment dire, le chemin, la difficulté du chemin pour atteindre les séries entre ces équipes-là,
Oui.
mais à quelque part, c'est normal qu'il y ait un avantage d'avoir
Bien
terminé plus
sûr.
haut.
Oui,
Donc,
puis pour moi, même le play-in, ben c'est sûr, après, tu dis aujourd'hui, ça concerne quatre équipes pour deux places. Comment arbitrairement on a décidé ça? Moi, j'avais pas détesté les règles de la saison qu'on a fini dans la bulle là, pendant la pandémie, où il y avait quand même un certain critère à atteindre pour être dans le play-in. Moi, la seule chose que j'aime pas beaucoup dans le play-in, c'est que, tu vois, par exemple, en ce moment, ben, on rajoute deux équipes en séries éliminatoires. Si c'était au jour d'aujourd'hui, dans l'Est, donc les équipes 9 et 10, Toronto et Chicago, c'est même pas des équipes qui jouent pour 500. T'sais, tu vas me dire, c'est pas beaucoup en dessous, effectivement, mais c'est quand même des équipes où je me demande si leur saison régulière fait en sorte qu'on devrait réellement les inclure. Dans l'Ouest, l'équipe numéro 9, aujourd'hui, c'est les Timberwolves qui jouent pour 500. L'équipe numéro 10 est un peu en dessous, le Thunder. Mais pour moi, peut-être, j'ai toujours un petit peu plus de difficulté à me dire, ben, tu mérites d'être en séries éliminatoires si tu n'as pas atteint quand même un certain nombre de victoires dans la saison. Donc, on a un format qui récompense des équipes qui, dans certains cas, même je pense que c'est les Spurs l'année dernière ou l'année d'avant, qui avaient fini quelque chose comme 36-46, t'sais, qui étaient 10 matchs en bas de 500, mais là, ils ont une chance de se qualifier en séries éliminatoires en gagnant un match ou deux. Donc, c'est peut-être le seul bémol que je mets à cette situation-là, mais il reste que pour le téléspectateur, c'est quand même vraiment intéressant d'avoir accès au play-in aussi.
en même temps, ce serait un peu compliqué de mettre en application ces règles-là, à moins qu'il y ait un quota de victoire préétabli. Parce que là, tu sais, tu me dis, ah, OK, tu as fini 9e, mais oh, tu n'as pas été assez bon, fait que tu ne feras pas les séries. Et moi, j'imagine un peu la base de partisans réagir à ça, ce ne serait pas joli.
Ouais, peut-être, mais en même temps, tu peux avoir les différents scénarios prévus. C'est-à-dire que si dans une conférence, par exemple, tu avais 10 équipes en haut de 500, ben, tu as le format actuel, hein, qui fonctionne bien, 7, 8, 9, 10 dans le play-in. Si tu en avais juste 9, ben, l'équipe qui finit 7e se qualifie directement pour les séries éliminatoires, puis on fait un play-in 8 contre 9, par exemple, un seul match chez l'8, puis, et ainsi de suite. Et si jamais une année, tu en avais 11, mais tu sais, tu en as rarement plus que. plus que 9, là, je dirais, mais si tu t'en as à 11, pourquoi pas faire un play-in avec 6, 7, 8, 9, 10, 11, puis avoir un format prévu pour ça aussi. Donc, moi, d'une certaine façon, je trouve que les séries, c'est là pour récompenser les bonnes équipes. Et on sait que pendant plusieurs années, il y a eu un réel débalancement entre les conférences. On sait que l'Ouest était beaucoup plus fort que l'Est. Bon, là, c'est plus nécessairement vrai maintenant. Même, je pense que l'Est est plus fort que l'Ouest au jour d'aujourd'hui. Mais si tu as des années où tu as beaucoup de bonnes équipes dans une conférence, on devrait les récompenser. Même d'ailleurs, on a souvent parlé d'avoir des playoffs où on calcule pas les conférences, on prend seulement les 16 meilleurs, par exemple. T'sais. Donc, plus on peut tendre vers la récompense des bonnes équipes, moi, je trouve que sportivement, c'est ce qui est le meilleur élément. Mais il reste que si on fait de l'argent, le but de la NBA, c'est de générer des sous. C'est comme ça qu'on le veuille ou non. Donc, si on génère de l'argent avec le tournoi play-in, il faut le maintenir en place.
Non, t'as bien raison, mais c'est pas sorcier comme raisonnement. Je pense que tu me. Ok, c'est bon.
Je t'ai gagné avec mon avis
Oui,
là-dessus, mais tu
tu me
m'as
gagnes un peu avec l'argumentaire, bon, les formules malléables, un peu comme ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, actuellement, ça reste que c'est 7, 8, 9, 10. Et
surpris.
puis, bon, tu me parlais de l'Est. Commençons de ce côté-là, parce qu'on veut analyser un peu ce qui pourrait se dérouler. C'est Miami, Atlanta, Toronto et Chicago en ordre. Et là, bon, tu le disais, les Wizards, Pacers, ça risque pas de remonter.
Oui, non, les Wizards, déjà, ils n'essayent pas de gagner très fort depuis quelques semaines. Bradley Beal joue pas. Quand ils ont joué contre les Raptors, je crois que c'est dimanche, il y a une semaine, il manque 3 des 5 joueurs titulaires sur le terrain, tu vois. Donc, ça a un peu sonné le glas de leur saison. Et puis, on connaît le nom des équipes qui vont être dans le tournoi, peut-être à l'exception de Miami qui pourrait grimper au 6e rang. On avait l'impression qu'ils allaient le faire, puis ils ont connu une mauvaise séquence. Et en même temps, Brooklyn, cette semaine, a gagné quelques matchs de suite. Donc, ça a replacé Brooklyn dans la position de 6e. Brooklyn a le bris d'égalité sur Miami aussi, ce qui va être important, hein, parce que là, on est rendu à 77, 78 matchs joués. Brooklyn, en ce moment, a un match et demi d'avance, donc 2 défaites de moins que Miami. Et si Brooklyn, disons, perd 2 matchs d'ici la fin de la saison, dans les 5 derniers, ben, ils vont quand même être 6e parce qu'au pire, ça sera un bris d'égalité en leur faveur. Donc, il faudrait quand même au moins 3 défaites de Brooklyn et une vraie séquence de victoires de Miami pour que ça s'interchange.
Tu parles des. Avant que tu passes au prochain, tu parles
Oui.
des Nets de Brooklyn. J'ai vu une statistique intéressante là-dessus, puis je
Oui.
voulais le mentionner. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais le trio de Dinwiddie, Bridges et Cam Johnson a déjà joué plus de minutes ensemble
Oui.
que KD, Kyrie Irving et James Harden. C'est assez fou de penser à ça. Alors qu'ils
Oui.
viennent d'arriver ensemble là, à la date limite.
Ouais, c'est pour ça que moi je mets toujours un bémol aux gens qui disent que ça n'a pas marché, ce qui s'est passé à Brooklyn. Moi, c'est oui, effectivement, ça n'a pas marché, mais c'est plus que c'est pas réellement arrivé, tu sais,
Ouais, c'est
d'avoir
ça.
les 3 ensemble, parce que quand ils ont joué les 3 ensemble, ils ont été très bons. Donc, c'est des problèmes autres que le fait d'un fit basket ou qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Bref, oui, bah, donc Brooklyn, je pense qu'ils sont partis pour être 6e, même si ça peut-être changer. Miami, donc 7e et avec un peu d'avance en ce moment sur les Hawks et Raptors. Donc, je pense que ça ne changera pas non plus. Les Hawks et Raptors sont à égalité. Les Bulls sont en embuscade avec un seul match de retard. Les Bulls qui jouent quand même du meilleur basket récemment. Donc, ça peut aller dans tous les sens, hein, ces 3 places-là. Ça pourrait même finir en triple égalité. T'sais, tout le monde à 40 ou tout le monde à 41 victoires pour finir la saison. Dans ce cas-là, ça serait Atlanta 8, Toronto 9 et Chicago 10, hein, s'il y a une triple égalité. Les Raptors, ils ont le bris d'égalité contre les Bulls, mais ils ne l'ont pas contre les Hawks. Donc, le scénario, disons, le plus probable au jour d'aujourd'hui, c'est le statu quo, c'est-à-dire Miami-Atlanta. Qui vont jouer pour la 7e place, Toronto qui va recevoir les Bulls et le gagnant de ce match-là jouerait le perdant du premier. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à un peu plus de stabilité que dans la conférence de l'Ouest.
Et parlons-en de la conférence de l'Ouest parce que c'est assez serré. Hein. Tu regardes position, mettons, je regarde ça rapidement là. T'sais, Golden State est à 41 victoires et ils sont cinquième. Et tu descends, 5 victoires de moins. Utah, 12e place. Donc, t'sais, c'est comme tout le monde entre 5 et 12 est à 5 victoires de différence.
Oui, c'est ça. C'est pas impensable que Golden State ou les Clippers, qui sont 5e, 6e en ce moment, pourraient être dans le tournoi play-in, malgré la présence de Steph Curry et de Kawhi Leonard, qui font des très bonnes saisons. Les Pelicans sont en feu en ce moment. 7 victoires à leurs 10 derniers matchs, 2 victoires de suite, ont grimpé jusqu'à la 7e place. Les Lakers, qui jouent du très bon basket aussi, sont maintenant remontés jusqu'à la 8e. Minnesota qui a dégringolé au 9e rang. Le Thunder, qui est globalement une équipe qui joue mieux qu'on pense cette saison, qui est 10e en ce moment avec un match d'avance sur les Mavericks. Bon, Utah, je pense qu'on peut les écarter un peu du scénario parce qu'ils ont déjà un match et demi de retard avec 5 matchs à jouer. Et je pense que c'est une équipe qui est consciente de ses limites aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont volontairement perdre les matchs, mais ça m'étonnerait de les voir triompher dans ces scénarios-là. L'équipe qui est réellement en danger, pour moi, c'est les Mavericks, qui d'ailleurs aujourd'hui vont affronter les Hawks, qui sont dans une situation importante aussi dans l'Est. Et les Mavericks, là, ça peut emmener beaucoup de frustration. On sait que Kyrie Irving, on a fait l'échange, mais il est aussi agent libre cet été. Luka Doncic peut commencer à être frustré. Ça pourrait être lui la prochaine superstar à demander un échange ou à changer d'environnement dans le futur. Donc, ça va être très intriguant de ce qui se passe à Dallas, si jamais on passe d'une finale de conférence l'année dernière à rater le tournoi play-in. Et c'est pas juste un scénario possible, j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, que les Mavericks ratent le play-in, c'est peut-être même probable. T'sais, ils ont du chemin à gagner. Là. Ils sont un match derrière le Thunder. Le Thunder, c'est pas une équipe qui perd tout le temps. Là, donc, il va falloir que les Mavericks, là, on gagne probablement 4 matchs sur 5 d'ici la fin de saison. Excuse-moi, 3 matchs sur 4 parce qu'ils sont à 78. Et puis, ça les mettra à 40 victoires. Et c'est pas sûr qu'à 40 victoires, ça va se qualifier dans l'Ouest. C'est possible, mais ça se peut que ça se joue sur des bris d'égalité. Autrement, je pense que les Lakers et les Pelicans démontrent par leur dynamique actuelle que tu regardes les Pelicans aujourd'hui ont 3 matchs d'avance hein, sur les Mavericks qui sont 11e. Donc, il faut se faire à l'idée que les Pelicans vont faire partie du top 10. Mais l'autre partie qui est intrigante, c'est de voir si justement ces mêmes Pelicans et les Lakers, et pourquoi pas les Timberwolves, peuvent peut-être grimper et rattraper les Clippers, rattraper les Warriors. Les Warriors, là, les Warriors, 4 matchs à jouer, dont 3 à l'extérieur. Leur fiche à l'extérieur, c'est 9-29. Là. Donc, ça se peut que les Warriors perdent 3 matchs sur 4 pour finir la saison et terminent à 42 victoires. Or, c'est pas impossible que les Lakers et les Pelicans rattrapent ça, 42 victoires au jour d'aujourd'hui. Les Lakers, ça leur prendrait 3 victoires en 5 matchs. Les Pelicans, ça leur prendrait 2 victoires en 4 matchs. Les Clippers, qui allaient mieux, là, viennent d'en perdre 2 de suite. Se sont remis dans l'eau. Donc, très, très dur d'y voir clair. Et c'est pour ça que la dernière semaine va être fascinante parce qu'on peut passer d'un scénario catastrophe pour les Mavericks à, qui sait, peut-être remonter dans le play-in. On peut passer à un scénario où les Lakers, qui ont commencé la saison 2 victoires, 10 défaites, pourraient finir en 5e place. T'sais. Donc, tout ça est envisageable et c'est vraiment, vraiment dur d'y voir clair et de faire une quelconque prédiction. Mais les tendances à noter, c'est celle que je t'ai notée, celle des Mavericks qui ont vraiment une dynamique négative en ce moment. Et l'ascension actuelle des Lakers qui ont gagné un gros match sur la route justement contre les Timberwolves vendredi soir et la surprise des Pelicans en fin de saison en l'absence de Zion Williamson.
Oui, qui remonte d'ailleurs les Pelicans au classement après avoir, je me souviens un épisode peut-être au mois de décembre où on se disait, hey, ils sont premiers, tu sais, ouais. ça a l'air sorti d'un autre monde à dire ça en ce moment, là, en vue du classement de la conférence de l'Ouest, mais il y a vraiment un moment cette saison où les Pelicans étaient au sommet. Et puis bon, ça s'est corsé par après. Mais chapeau à eux pour leur saison. Puis, tu sais, dernier point, là, je veux qu'on revienne un peu sur les Mavericks quand même, parce que c'est pas normal pour une équipe d'aller chercher un joueur de la trempe de Kyrie Irving en ayant une fiche de 30-26 avant la date limite des transactions. Et là, de l'obtenir, et puis de se retrouver à 37-41. Ça veut dire que depuis qu'il est arrivé, c'est 7 victoires et 15 défaites pour les Mavericks. Bon, pas tout le temps joué. Luka Doncic, pas tout le temps joué. Mais ça reste que ça parle quand même un peu là, comme fiche.
Oui, c'est pas un duo qui fonctionne tant que ça. Puis c'est dur de construire ton équipe autour de deux joueurs qui sont des vraies faiblesses défensives. Tu sais, Doncic et... Tu peux faire un argument que Luka Doncic est le joueur le plus fort en attaque dans la NBA. En tout cas, c'est celui qui génère le plus de points si tu combines les points générés par ses passes décisives et les points qu'il marque.
Ouais.
C'est clairement lui ou Jokic, voire un Kevin Durant ou un Giannis en termes de points marqués, mais c'est les joueurs les plus forts en attaque de la Ligue. Donc, je ne suis pas en train d'attaquer Luka. C'est un vrai candidat MVP. Mais comme Luka, il ne joue pas beaucoup de défense, d'en avoir un deuxième comme lui qui met des points et qui ne joue pas de défense non plus, quand tu n'as pas grand-chose autour, ce n'est pas nécessairement une recette qui va te mener à beaucoup, beaucoup de succès. Et je pense qu'on est en train de s'en rendre compte du côté des Mavericks, puis on voit les résultats. Et l'autre chose dans tout ça, c'est que Kyrie Irving, bon, depuis le championnat où il a donné un bon coup de main en tant que lieutenant à LeBron James en 2016, à peu près partout où il va, on ne peut pas dire que ça aide l'équipe à être meilleure. Tu sais,
Ben non.
les Celtics étaient en finale de conférence, il est arrivé là, ils n'ont pas été meilleurs, puis quand il est parti, ils sont devenus meilleurs. Ils ont fait une finale NBA sans lui. Les Nets, je pense qu'on est content de ne plus l'avoir au sein de l'organisation aussi. Donc, Kyrie Irving, là, c'est un pensez-y bien, vouloir lui donner le contrat qu'il recherche cet été parce que c'est un joueur phénoménal. Offensivement, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs plus talentueux que lui, même dans l'histoire de la Ligue. Mais est-ce que ça aide ton équipe à gagner? Ça, il n'en fait pas vraiment la preuve en ce moment. Donc, franchement, les Mavericks, ça va être une situation potentiellement explosive à surveiller cet été en fonction de comment la saison se termine. Et je veux faire un petit clin d'œil en finissant parce que on parlait des Pélicans juste avant et les prédictions globales de début de saison s'avèrent vraies, hein, c'est-à-dire que quand Zion Williamson joue, ça peut être l'équipe surprise de la NBA et c'est l'une des meilleures équipes de la Ligue, mais quand il n'est pas là, ça crée une situation complexe. Maintenant, on sauve la fin de saison. Pourquoi? Clin d'œil à Brandon Ingram qui, dans ses 9 derniers matchs, 30 points de moyenne, 52% du terrain et 48% de la ligne à 3 points avec 8 passes décisives par match. Donc, sa ligne de stats, c'est 38-6 avec 6 rebonds sur du shooting de 52-48-92. Donc, s'il y en a qui
Incroyable.
se posent la question, pourquoi les Pelicans font un push de fin de saison comme celui-là? C'est beaucoup dû à la performance exceptionnelle de Brandon Ingram.
Ben, Charles, ça a été très plaisant de t'avoir pour ces deux segments cette semaine. Je te souhaite de bonnes dernières semaines de saison régulière.
Bien, merci à toi aussi. Puis ça va être plaisant la semaine prochaine de pouvoir parler des match-ups qui s'en viennent justement de ce fameux tournoi plein-là qui va nous avoir tenu en haleine jusqu'à la fin.
Yes, j'ai déjà hâte de mon côté. Puis, au retour de la pause, toujours à cette émission d'Allo 360, on retrouve Pascal Jobin pour discuter du basket universitaire NCAA. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de ce dernier segment de l'émission Alley-Oop 360 cette semaine et on va discuter du March Madness de la NCAA, mais sous un autre angle que celui des matchs, que celui des résultats. Parce que vous l'avez vu, c'était surprise après surprise. Hein? Le Final Four n'est pas exactement composé d'équipes favorites pour remporter ce tournoi-là. On parlait de San Diego State et Florida Atlantic. Donc, c'est San Diego State qui l'a emporté samedi pour obtenir une place au championnat national qui aura lieu lundi soir. Et de l'autre côté du tableau, Miami s'est fait battre par l'université UConn qui a atteint elle aussi, donc la finale. Donc, ces équipes-là sont respectivement classées 5, 9, 5 et 4 sur des têtes de série qui vont jusqu'à 16. C'est la première fois de l'histoire de la NCAA, du March Madness, depuis qu'on a les classements par tête de série, qu'il n'y a aucun one seed, comme on les appelle communément, au sein du Final Four. Donc ça, c'est une énorme surprise. Et mon invité, Pascal Jobin, qui est là aujourd'hui, estime qu'il y a quelques causes à ça qui pourrait avoir mené justement autant de surprises. Pascal Jobin est là aujourd'hui. Comment ça va?
Ça va très bien, William. Comment ça va toi?
Oui, ça va bien aussi. J'ai eu le droit à du bon basket dans les dernières semaines. Des baskets surprenants. Puis là, les séries de la NBA sont à nos portes dans une semaine. Donc, en fait, la saison régulière va se conclure dimanche prochain. Donc, bien excité pour tout ça. On discutait avant d'entrer en onde et puis tu m'expliquais que selon toi, la prise en importance du portail des transferts pourrait avoir été une cause dans toutes ces surprises.
Je pense que oui, William. Pourquoi? Parce que je pense que les joueurs universitaires NCAA, il ne faut pas se mentir, là, le but ultime, c'est la NBA. Okay? Le but ultime, c'est de devenir un pro. Et numéro un, c'est dans la NBA, avant que ce soit l'Europe ou la G-League, là, mais on veut jouer dans la NBA. Mm-hmm. Fait que souvent, un joueur, tu sais, dans les années passées, puis on va peut-être dire depuis, je pense que tu m'as dit hors honte que le Porto existe depuis 2018, ouais. Mais je pense qu'avant, tu faisais un choix et tu vivais avec ton choix. OK? Puis on est d'accord, William, que cette génération-là, moi, je commence à être vieux, là, mais cette génération-là, aime avoir beaucoup d'options.
Okay? Attention à ce que tu dis, hein? J'ai 21 ans, moi.
Ben, ta génération aime avoir beaucoup d'options. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont blâmer LeBron. T'sais. LeBron a juste suivi son contrat. La différence, c'est qu'on est habitué que les équipes échangent les joueurs. Et là, c'est LeBron qui a comme contrôlé un peu comme on dit, la narration, le narratif. Moi, je vais avec où est-ce que je veux aller, je vais faire ce que je veux faire. Fait que le portal, si je regarde ça dans les dernières années, est quand même utilisé en fonction de certains joueurs qui se disent, OK, j'ai commencé à université X, mais je pense que si je vais à université Y, je vais avoir plus de temps de jeu. Puis pour ma dernière année ou mes deux dernières années, je vais peut-être avoir une meilleure opportunité de me faire voir pour le NBA. Donc, le fait de vouloir jouer pour Duke ou Kentucky ou Kansas, je pense que ça dans les années qui a passé, puis dans les années à venir, perd un petit peu de lustre. Tu comprends ce que je veux dire par là?
Ouais.
Et cette année, puis je pense que même les 8 dernières, il n'y avait aucun numéro dans les 8 équipes qui ont joué, si je ne me trompe pas. Si je regarde le bracket, fait que ça, c'est tu penses que l'année passée ou l'année où il y a 2 ans, dans le Final Four, il y avait 3 numéros 1 puis un numéro 4, mettons. Là,
mm-hmm.
Fait il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment. Puis aussi, William, ben, tu sais que moi, je suis un fan fini de la NBA. Puis, tu sais, le numéro 1 dans le draft cette année, il joue en France. Le numéro 2, Scoot Henderson, ça fait 2 ans qu'il est dans la G League. Tu sais, Bronny, il n'a pas annoncé, le fils de LeBron James, il n'a pas annoncé encore dans quelle université il va aller. Ça m'intrigue. Il va-tu aller dans la G League? Il va-tu jouer NCAA? C'est intriguant de savoir ce qu'il va faire. Mais beaucoup de bons joueurs vont jouer en Australie. L'Australie est reconnue comme un pays de développement. Puis la NBA, maintenant, a toujours un regard sur qu'est-ce que tu fais en Australie. Si là, je peux aller avec le Melo Ball. Tu vois?
Ben, c'est ça. Le meilleur exemple récent que j'allais donner, c'est le Melo Ball. T'sais, lui, il est allé passer une saison en Australie, revenu gagner le titre de recrue de l'année. Donc, c'est certain que la NBA va aller regarder là-bas.
Exactement. Donc, je pense que la NCAA, en ce moment, je pense pas qu'ils vont perdre. Moi, je trouve ça plus excitant de voir des équipes qui sont pas les plus gros programmes. C'est quand même des gros programmes. Le UConn, c'est pas n'importe quoi. Miami, c'est un bon programme, mais ce ne sont pas des programmes historiquement qui sont toujours en Final Four, Final Eight. T'sais.
Non, tu sais, c'est pas que... comme tu dis, c'est pas un Kansas, c'est pas un Duke, c'est pas un North Carolina. C'est pas ces équipes-là, c'est pas un Kentucky. Toutes ces équipes-là, les gros noms, on ne les a pas vus aller très loin cette saison.
Exactement. L'autre situation, il faut vraiment mettre le blanc. Mike Krzyzewski a quitté la NCAA. Fait qu'on dirait que c'est une nouvelle ère, OK? Puis, comme je dis, je pense que les joueurs sont beaucoup plus dans une situation, OK, où est-ce que je peux aller pour m'assurer d'être un choix de première ronde,
ouais.
D'être un joueur, d'être un pro? Puis si après 2 saisons, j'aime pas ça, je me mets dans le portal. Tu sais, moi, je me souviens, il y a longtemps quand je jouais, tu peux pas si tu transférais, il fallait que tu t'assoies 1 an. Mm-hmm. Si tu transférais dans la même conférence, c'était 2 ans.
Oui, okay. Et pourquoi penses-tu que ces pénalités-là ont été retirées? Parce que comme tu l'as mentionné, de manière officielle, le transfer portal sans punition, entre guillemets, existe depuis 2018. Donc, ça fait quelques années que les joueurs peuvent le faire et ils l'utilisent. Cette année, je suis allé faire la recherche et parmi les joueurs de Division 1, de NCAA au basket, masculin seulement, 1649 noms inscrits dans le portail des transferts.
Wow.
1649. Wow. Donc, c'est vraiment non négligeable. Qu'est-ce que ça te dit comme statistique, ça? Puis comme, tu sais, comme évolution sur la mentalité un peu, là.
Ben, comme tu viens de dire, la mentalité de je fais mon premier choix. Dans le passé, fallait-tu vivre avec ou presque. Maintenant, on donne des options. Et la NCAA n'a pas le choix d'être, comment je pourrais dire ça, plus à l'écoute des joueurs et des jeunes s'ils veulent les attirer, s'ils veulent qu'ils restent dans la NCAA. Maintenant, ils ont le droit d'avoir leur propre, de faire des sous sur les commanditaires. On est d'accord avec ça?
Oui.
Ce sont tous des choses que je ne pensais pas que j'aurais vu ça de mon vivant, que la NCAA commencerait à penser que, oui, on est très riche, là, mais on va donner une opportunité aux jeunes de faire quelque chose. On va les laisser faire un transfert pour qu'ils puissent voir des choses. Je pense que c'est une réalité maintenant. parce qu'ils doivent combattre la G-League, ils doivent combattre les clubs en Europe, tu vois? Mm-hmm. Parce que comme tu as dit, 1000 quelque chose dans le portal, ça démontre que ça valait la peine de le faire pour la NCAA. On garde ces jeunes-là contents, on les garde dans le circuit, tu vois? Ouais. Fait que je pense qu'à quelque part, c'est bon pour la NCAA, mais c'est sûr que ça va affecter des programmes qui, historiquement, ils sont toujours numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pourquoi? Parce que si, mettons, je signe avec l'Université de Duke, William, mm-hmm. puis l'année après, toi, tu signes avec l'Université de Duke, tu es un petit peu meilleur que moi. Moi, je suis comme, wow.
Mais toi, tu vas être le number one guy.
Moi, je vais être le number one guy. Fait, moi, je vais dire, hey, moi, je change de place. Puis tu sais quoi? Il y a des gens qui pensent que c'est juste les jeunes, mais c'est les entraîneurs aussi. T'sais? Si moi, je suis un entraîneur, puis mon meilleur joueur, à sa troisième année, il est bon, mais Bronny James veut venir jouer pour mon université, ben, je vais peut-être te dire, tu sais quoi, William, mets-toi dans le portal, puis va-t'en jouer ailleurs. Parce que ça, c'est l'autre côté de la médaille que beaucoup de gens ne pensent pas.
Ah oui? À quel point ça arrive, ça, selon toi?
Plus qu'on pense.
OK.
Je dirais, là, sur les 1000 jeunes, il y a au moins 20% que l'entraîneur va dire, hey, mon ami à East Carolina, il aimerait ça t'avoir comme point guard. Parce que moi, je vais aller chercher le meilleur joueur high school de North Carolina. Exemple, tu comprends?
Quasiment comme si il y avait un marché des transactions dans NCAA non officiellement.
Oh oui, il y en a un. À 100%. Hmm. À 100%. Puis en passant, j'ai un de mes anciens joueurs de Demortin, il fallait que je le mentionne.
Oui, oui, vas-y.
Jamil Telford à Northeastern qui est dans le portal. Je te tiendrai au courant. Puis moi, je pense que c'est une bonne décision dans son cas parce qu'il y a une super saison. Puis, tu sais, tu te mets dans le portal, mais tu as une idée aussi de c'est quoi mes opportunités. Fait qu'à quelque part, il y a des choses qui se passent en dessous de la table qu'on a une idée qu'est-ce qu'on peut faire. T'sais. Puis j'ai une autre de mes anciennes joueuses, Roxane Macolo, de Demortin, qui était à Purdue. Elle a quitté Purdue. Puis elle s'est retrouvée à pas Texas Tech. Je pense qu'elle s'est retrouvée à Texas Christian, TCU.
Ouais.
Fait que pour raison justement de temps de jeu, puis d'opportunité, puis de style de jeu, puis ces choses-là.
Puis, tu as parlé de Jamil Telford, puis c'est bien que tu le mentionnes, c'est un Québécois dans la NCAA, fait que parlons-en, tu sais, c'est peut-être que l'auditoire le connaît pas nécessairement. Je suis allé sortir son profil, match, en fait, une saison assez intéressante, là. On parle de 30 matchs avec des moyennes de 16 points, 4 rebonds et demi, 2 passes. Il a fait une équipe All Conference, donc de la CAA avec l'Université Northeastern. Et ouais. Puis, donc, Jamil Telford, si tu peux nous expliquer un peu, c'est quel type de joueur pour qu'on le connaisse un petit peu plus, qu'on ait en tête, OK, lui, bon, c'est à peu près ça qu'il fait là, sur le terrain.
C'est un joueur de presque 6 pieds 7, 6 pieds 6 et demi, qui est un meneur de jeu. Pour la NBA, c'est très intéressant. Avec un tir de 3 points extrêmement amélioré. Connu un match de 31 points cette année. Peut-être une coïncidence, mais j'étais physiquement au match. Fait que j'avais été mon point, j'étais le voir.
Ben, tu devais lui porter chance, 3, voyons.
Il a rentré 5-3 points dans le match. Fait que, puis quelques jours avant, il était avec moi à Demortin, puis on travaillait vraiment sur des affaires spécifiques que son entraîneur veut faire. Fait que je pense que pour Jamil, l'opportunité de jouer dans un programme, là, il joue à Northeastern. Je te donne un exemple. Il signe avec... je ne sais pas moi, Purdue. Okay? Mm-hmm, c'est une plus grosse plateforme pour ses performances. Si est-ce qu'il va avoir les mêmes statistiques? Peut-être pas. Mais ce qu'il va faire à Purdue est beaucoup plus intéressant pour les scouts NBA que ce qu'il fait à Northeastern.
Ouais.
Tu peux toujours faire la NBA. Fait que là, c'est un petit peu, est-ce que je mets mon nom dans le draft, je parle à des agents pour avoir une opinion, puis je me mets dans le portal pour voir qu'est-ce qui peut être intéressant pour moi. Tu comprends?
Ouais.
Pour certains, tu sais, si je t'ado puis je joue pas du tout, je me mets dans le portal pour aller à Northeastern pour pouvoir être le joueur. Tu comprends ce que je veux dire par là?
Ouais.
Il y a deux sortes de chemins. Soit que tu es dans une équipe trop de calibre, trop de joueurs et ton temps de jeu n'est pas là, fait que tu décides d'aller ailleurs pour montrer que tu es capable de faire le boulot. Ou c'est l'inverse. Tu es un des top joueurs de ton université, mais là, tu veux voir est-ce que je suis capable de faire la même chose à un autre niveau, à un Purdue, à un Kansas. À un Marquette. Il y a aussi Olivier Maxandre qui lui avait quitté Clemson, qui est quand même un gros programme pour Marquette, mais pour X raisons, le système de jeu à Marquette, on l'a vu, là, comment il performe beaucoup mieux à Marquette qu'il performait à Clemson. Il y a plusieurs raisons pourquoi tu quittes un programme. Puis pour le cas pour Jamil, Mais là, on parle de NBA, c'est vraiment son but. T'sais, Jamil, il a joué avec Lugans Dort, il a joué avec Bénédicte, il connaît ces gars-là de Montréal. Tu veux dire, fait que là, lui, il veut son opportunité aussi. C'est quand même des gars qui ont joué à Arizona State, puis Arizona a des bons programmes. Fait que si Jamil peut aller dans un programme et démontrer la prochaine saison qu'est-ce qu'il peut faire, ben là, on se rapproche un petit pas de plus pour la NBA.
J'aime l'exemple aussi d'Olivier Maxence Prosper que tu as donné parce que sa première saison à Clemson, il jouait 10 minutes par match, marquait 2,5 points. Et là, deux ans plus tard, rendu à Marquette, c'est un partant qui joue 30 minutes par rencontre, qui score 12,5 points, qui prend 5 rebonds, puis qui joue un rôle important en défense. Exact. Et on l'a vu lors du tournoi. Bon, Marquette, son chemin s'est terminé un petit peu plus tôt qu'on aurait voulu, mais ça donne un bon exemple aussi.
Oui, absolument. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, c'est ça, il y a beaucoup de raisons, mais comme c'est devenu, ça fait partie de la vie de la NCAA, puis je pense que moi, je respecte ça pour donner plus d'opportunités aux jeunes, ce que la NCAA ne faisait pas avant. Tu fais un choix, puis tu sais, dans la vie, on est d'accord, William, puis moi, je suis à 100% d'accord. Tu sais, tu fais un choix, c'est pas vrai que tu vas juste, c'est fini après ça, là, tu sais, les opportunités sont là. Puis dans le cas du sport, peut-être que tu n'es pas nécessairement à la meilleure place. Tu sais, moi, je pense qu'on parle souvent de persévérance puis de tu veux travailler fort. Tu sais. Fait que pour un grand nombre d'athlètes, tu es probablement à la bonne place parce que tu as un coach qui te recrute, tu sais, puis tu es dans un système qui est intéressant. Mais tu sais, quand tu as mentionné le chiffre au-dessus de 1000 qui sont dans le portal, mais tu vois qu'il y a différentes raisons pourquoi tu vas quitter un programme. Mais l'opportunité et le droit de le faire et de ne pas perdre une année. C'est ça qui est important, de ne pas perdre une année. Donc, la réglementation est beaucoup moins stricte qu'était avant. Et l'opportunité des jeunes athlètes, maintenant, garçons ou filles, dans la NCAA pour faire des sous sur le côté, ben, l'opportunité est là. Ils ont accepté de laisser les athlètes faire ça maintenant.
On a parlé de deux Québécois. Je voulais quand même le mentionner hein, parce qu'il a annoncé cette semaine Tyrese Samuel, qui est un forward de 6 pieds 10, un Québécois. Il jouait à l'université Seton Hall. Ben, il a déclaré qu'il était éligible pour le repêchage de la NBA après 4 ans donc à Seton Hall. Et après, bon, s'il n'est pas sélectionné, il entrera également dans le portail des transferts. Pascal, je voulais te poser une dernière question en lien avec la NCAA parce que, bon, on veut pas... Le temps file. Est-ce que tu penses, parce qu'on t'a parlé d'international, t'as parlé de G-League, est-ce que tu penses que la suprématie, entre guillemets, de la NCAA est menacée depuis les dernières années en raison, justement, des gros espoirs qui choisissent d'aller ailleurs, puis ça semble pas les déranger plus que ça? T'sais, alors qu'avant, peut-être ça aurait été moins envisageable.
Je pense que tout le monde est à prendre son compte maintenant, tu vois? De voir qui se rend en Final Four, Final Eight. C'est pas tous des joueurs NBA. Tu sais, soyons réalistes, à chaque année, il n'y a pas 350 joueurs NBA potentiels. Tu sais, il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine. Maintenant, les opportunités pour les jeunes, ils sont là. Je pense que la G League, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que quand tu es identifié un en français, je dirais un 5 étoiles, un joueur 5 étoiles.
Ouais.
La G League t'offre un minimum de 500 000 $ pour commencer à jouer. Ah. Ça, c'est un autre niveau. Là. Les salaires, l'opportunité. Fait, j'ai lu un article sur un recruteur qui disait que Scoot Henderson, il va se faire repêcher probablement deuxième, mais c'est comme si ça faisait 2 ans qu'il était dans la NBA. Parce qu'il joue les règles NBA dans la G League, il fait partie des coachs NBA. C'est un professionnel maintenant. Un 5 étoiles, on va en avoir de moins en moins, selon moi, dans la NCAA. Il va en avoir. Puis ça va être encore des situations d'une saison maximum, tu sais. Ça va être plus... La NCAA va devenir plus un 3-4 étoiles. Je ne sais pas si comment je veux dire par là.
Ouais.
Et souvent, ces joueurs-là, ben, ils vont se retrouver dans différents programmes. Donc, les Kentucky là, qui dominaient, puis les Duke qui dominaient avec les... Tu sais, des fois, tu avais deux universités qui avaient, il y avait 10 des 22... McDonald's All-American, tu sais. Tu retrouves dans deux équipes 10 des meilleurs joueurs NCAA. Là. Je pense que ça n'arrivera plus maintenant.
Puis un exemple de G-League là, qui m'est venu en tête pendant que tu le décrivais, mais Jalen Green, qui a été le deuxième choix repêchage 2021, c'est sa deuxième saison dans l'NBA, il marque 22 points par match, puis il a 21 ans. Donc, tu sais, ça te donne une idée de ce que ces gars-là sont capables de faire. Pascal, merci beaucoup. Hein. C'était très intéressant, c'était différent comme chronique d'analyser un peu le portail des transferts dans son entièreté comme ça, puis de l'impact que ça peut avoir sur la NCAA. Donc, je te remercie pour ton temps et pour tes commentaires.
Ça fait plaisir, William, et à bientôt.
À bientôt. Donc, c'est la fin de cette émission Les Hoops 360. Je tiens à remercier mes deux intervenants de la journée. Donc, Pascal Jobin, que vous venez d'entendre et que vous allez pouvoir entendre également sur les ondes de TVA Sports cet été. Et puis, donc, Pascal, ben, en fait, Charles Dubé-Bret, qui était là pour les deux premiers segments. Donc, on le remercie. On le remercie pour sa présence, évidemment, pour sa participation hebdomadaire. D'ici là, on vous invite à nous suivre sur alioub360.com pour toutes les actualités basket sur nos réseaux sociaux. Et on vous invite à regarder le March Madness demain soir. C'est la finale.